Jack London, Le Vagabond des Étoiles, chapitre 28. Qui serai-je quand je revivrai? Je viens d'avoir une conversation avec le garde de la mort qui est de service. Il a connu Jack Oppenheimer, qui occupait cette même cellule, il y a un an, avant de marcher au JP, comme je vais le faire moi-même. C'est un ancien soldat, il chique continuellement et de façon malpropre. Sa barbe grise et sa moustache sont toutes maculées de traînées jaunes. Il est veuf avec 14 enfants vivants, tous mariés, et il est le grand-père de 31 petits-enfants vivants, l'arrière-grand-père de 4 petites filles. Ce n'est pas sans difficulté que j'ai obtenu ces renseignements. J'ai dû les lui extirper avec autant de peine que s'il se fût agi de lui extraire une molaire. C'est une sorte de rustre, d'une intelligence très inférieure. L'esprit ne l'a jamais tourmenté, et c'est pour cette raison sans doute qu'il a vécu si vieux et a, sans se troubler, procréé tant d'enfants. Ses idées ont dû se bloquer chez lui dès l'âge de 30 ans. Le monde lui est indifférent. Il se contente d'ordinaire de répondre oui ou non à mes questions. Ce n'est point qu'il soit naturellement hargneux ou morose, mais il n'a point d'idées exprimées. Je me demande si je ne devrais pas souhaiter, pour ma prochaine réincarnation, une existence comme la sienne, purement végétative, et qui me reposerait grandement des élans divins de mon intelligence. Après avoir été secoué, bousculé, assommé de coups de poing et coups de pied par Thurston et par ses chiens pendeurs, tout en remontant ce terrible escalier, j'éprouvais un immense, un infini soulagement lorsque je me retrouvais dans mon étroite cellule. Là, tout me paraissait si sûr, si stable. J'étais comme un enfant perdu qui, après une équipée, rejoint la maison paternelle. Je me prenais d'affection pour ces murs que, durant des années, j'avais tant haïs. Ces bons murs épais et solides que j'avais à droite et à gauche à portée immédiate de ma main empêchaient l'espace de bondir sur moi comme une bête fauve. L'agoraphobie est une terrible maladie. Je plains sincèrement ceux qui en sont atteints. Du peu que j'en ai tâté, je ne crains pas d'affirmer que la surmonter est plus difficile que d'accepter la pendaison. Je viens de me faire une pinte de bon sang. Le médecin de la prison, imaginez-vous un homme fort sympathique au demeurant, est entré dans ma cellule de mort pour faire un brin de causette avec moi et m'offrir incidemment ses bons offices, c'est-à-dire une dose suffisante de morphine qu'il me fournirait et que j'absorberai pendant la nuit. Demain matin, m'a-t-il affirmé, je ne me rendrai même pas compte que je marche à la potence. J'ai décliné sa proposition. J'en ai ri aux éclats. Je me souviens du cas de Jack Oppenheimer, que l'on m'a conté. Lui non plus n'a pas eu peur de la mort. Son dernier matin venu, et son petit déjeuner terminé, comme il était déjà dans sa chemise sans col, les reporters furent introduits dans sa cellule, curieux de recueillir ses dernières paroles. Écoutez comme il les mystifia. Comme il lui demandait ce qu'il pensait de la peine de mort, poser une question semblable à un homme qui va mourir et que l'on va voir mourir, c'est vous l'avouer un toupet de sauvage, il leur répondit, beau joueur, comme il avait toujours été dans sa vie, « Gentleman, je pense vivre assez pour l'avoir un jour aboli. Ça, c'était tapé. » J'ai vécu d'innombrables existences et je puis affirmer que depuis la création du monde, la barbarie humaine n'a pas fait un pas vers le progrès. Nous avons mis sur elle, au cours des siècles, un léger vernis, rien de plus. « Tu ne tueras point à proclamer la loi divine. Du bluff. La preuve en est comme pendra demain matin. » Dans les arsenaux de toutes les nations se construisent à cette heure des canons et des navires, Dreadnought and Super Dreadnought, et 1000 instruments savants destinés à tuer. Tu ne tueras point. Bluff, bluff, bluff. Nos femmes, à l'âge de pierre, étaient plus vertueuses que ne sont les nôtres aujourd'hui. Nous ne mangeons pas d'aliments frelatés, empoisonnés par un mercantilisme éhonté. Les filles des pauvres n'étaient point condamnées pour vivre à la prostitution. La prostitution était inconnue. Je vous ai conté ce qu'au début du XXe siècle après Jésus-Christ, j'ai enduré dans mon cachot et toutes les tortures de la camisole. Jamais je n'ai connu dans les siècles passés de tourments équivalents. Nous sommes aussi sauvages que nos premiers ancêtres. Mais ceux-ci, quand ils tuaient, le faisaient franchement et le front levé. Ils acceptaient la responsabilité de leur acte. Nous, nous avons adjoint à nos meurtres l'hypocrisie. Nous ne nous cachions pas autrefois derrière l'autorité des philosophes, des prédicateurs subventionnés et des professeurs de droit. Il y a 100 ans, 50 ans, 5 ans seulement, les voies de fait n'entraînaient pas aux États-Unis la peine capitale. Aujourd'hui, Jack Oppenheimer a été pendu en Californie pour ce seul délit. Et moi je vais l'être pour un coup de poing sur le nez d'un homme. Voilà le progrès, bonté divine. Mais si les singes et les tigres étaient soumis à un pareil régime, il est longtemps que la race en aurait disparu. N'est-ce pas votre avis? Seigneur, Seigneur, on plaint le Christ parce qu'il a été crucifié. Qu'est-ce que nous dirions alors, Oppenheimer et moi? Comme Ed Morel me le frappait un jour avec ses doigts, le pire usage qu'on puisse faire d'un homme est de le pendre. Non, je n'ai vraiment aucun respect pour la peine capitale. Et ce n'est pas seulement une mauvaise action pour les chiens pendeurs qui l'exécutent, moyennant salaire. C'est une honte pour la société qui la tolère et paie pour elle des impôts. Être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ainsi s'exprime le code, dans sa phraséologie bizarre. Mais la pendaison est une chose sotte, stupide et par-dessus tout anti-scientifique. Voilà pourquoi elle me répugne. Le matin est arrivé. Mon dernier matin. J'ai dormi toute la nuit, comme un enfant. Dormi si paisiblement qu'à un moment le garde de la mort s'en est effrayé. Il a cru que je m'étais étouffé sous mes couvertures. L'inquiétude du pauvre homme faisait pitié. Son pain et son beurre étaient en jeu. Si j'eusse été réellement mort, il eût été mal noté, révoqué peut-être, et la perspective d'aller grossir le nombre des sans-travail est amère à cette heure. L'Europe, m'a-t-on dit, liquide depuis 2 ans un passif fort lourd. Ce sera ensuite le tour des États-Unis. Cela signifie une crise commerciale prochaine, une panique financière peut-être, et que l'armée des sans-travail fournira l'hiver prochain de plus longues queues aux distributions de pain des œuvres d'assistance. On m'a apporté mon petit déjeuner. Cela paraît idiot, mais je l'ai absorbé de bon cœur. Le gouverneur m'a offert lui-même 1 litre de whisky. Je l'en ai remercié et lui ai répondu qu'il veuille bien en faire don, de ma part, au quartier des assassins. Pauvre gouverneur, il craint, si je ne suis pas ivre, que je ne me rebiffe et mette du désordre dans la cérémonie, et que je ne lui adresse devant les reporters des reproches sur sa prison. On m'a mis une chemise sans col. Il semble que je sois devenu soudain un personnage important. C'est incroyable le grand nombre de gens qui s'intéressent à moi. Le docteur vient de sortir, je lui ai demandé qu'il me tâte le pouls. Les battements sont normaux. Je jette au hasard ces lignes sur le papier, feuille par feuille. Elles sortent des murs de la prison par une voie secrète. Je suis l'homme le plus calme de cette prison. J'ai l'air d'un enfant prêt à entreprendre un voyage. J'ai hâte de m'en aller curieux des pays nouveaux que je dois voir. Pourquoi aurais-je peur de la mort? Moi qui si souvent suis entré dans les ténèbres de la mort volontaire pour en ressortir aussitôt. Le gouverneur, à la place du litre de whisky, m'a expédié une bouteille de champagne. Je l'ai envoyé au quartier des assassins. Que de considération l'on a pour moi en ce dernier jour. Étrange, étrange. Ces hommes qui vont me tuer sont, j'imagine, épouvantés de ma mort. Ils tiennent à se mettre en règle avec leur conscience, et je dois leur paraître un être supérieur, ayant déjà le pied dans l'éternité. Ed Morel vient de me faire parvenir un petit mot. Il m'affirme qu'il a fait les 100 pas toute la nuit devant le mur du quartier des condamnés à mort. On lui a interdit, administrativement, de venir me faire ses adieux. Bandit. Je le dis sans le savoir, mais je le suppose. On a dû se défier de lui. Ces gens sont des enfants. Ils me tuent et la nuit prochaine, lorsqu'ils m'auront allongé le cou, ils auront peur pour la plupart de rester dans l'obscurité. Voici quel était le message d'Ed Morel. Ma main est dans la tienne, vieux camarade. Je sais que même au bout de la corde, c'est toi qui auras gagné la partie. Ils n'auront pas eu la dynamite. Les reporters se sont éloignés, je ne les verrai plus la prochaine et dernière fois que du haut du gibet, avant que le bourreau ne me cache la face sous le voile noir. Quelques lignes encore. En les écrivant, je retarde la cérémonie. Le corridor est plein de fonctionnaires et de hauts dignitaires. Tous sont nerveux, ils désirent évidemment en finir au plus vite. Sans doute plusieurs d'entre eux sont-ils attendus à déjeuner. Je les désoblige beaucoup en tenant encore ma plume. Le prêtre m'a renouvelé sa demande de rester avec moi jusqu'à la fin. Le pauvre homme, pourquoi lui refuserais-je cette consolation? J'ai consenti et maintenant il a l'air tout réjoui. Mon Dieu, qu'il faut peu de choses pour rendre heureux certains hommes. Je pourrais m'attarder encore à en rire pendant 5 joyeuses minutes s'il n'était pas si pressé. Je termine ici. Je ne puis que me répéter. Il n'y a pas de mort absolue. L'esprit est la vie, et l'esprit ne saurait mourir. Seule la chair meurt et passe, et par l'effet de fermentation chimique se dissout et se transmute, pour renaître comme une matière plastique, sous des formes nouvelles et diverses. Formes éphémères qui, à leur tour, périront pour renaître encore. Qui serai-je quand je revivrai? Voilà. Voilà ce qui me préoccupe. Qui serai-je? Et de quelle femme serai-je aimée?